Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver. Bonjour Manuel Mariani.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien. Critique gastronomique, vous avez eu une semaine quand même assez compliquée. Je dois révéler un secret au monde entier. Vous avez croisé Hélène de Hélène et les garçons, c'est
oh
ça?
Oui, et pas que.
Non, mais c'est surtout Hélène. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui vous enviaient, Manu.
Absolument.
On a fait que se croiser.
J'étais envoyé spécial dans la cour d'honneur de l'Élysée pour la visite du président Xi Jinping, le président chinois. Et il se trouve que la chanteuse préférée de Xi Jinping, c'est Hélène Rollès. Voilà.
Hélène,
il faut le savoir, qui est une méga star en Chine, hein, Hélène Rollès. Hein. Quand vous demandez à des Chinois dans la rue de vous chanter une chanson, ils vont chanter La vie en rose d'Edith Piaf ou Hélène, je m'appelle Hélène.
Mmh. Voilà. Et après, l'autre mégastar, c'est Manuel Mariani.
Dans
un autre registre.
Moi, c'est limité au 13e arrondissement ou à Belleville, mais en Chine, non, pas encore.
Bah, c'est pas mal. Ouais. Bon, alors, elle est comment, Hélène Rollès?
Elle est étonnamment jeune, hein, vu que.
Je sais pas quel âge elle a.
C'est plus un perdreau de l'année, hein, Hélène Rollès, mais elle fait encore assez jeune, comme ça.
Mais elle est arrivée en voiture, comme ça?
Elle est arrivée avec une jolie limousine, comme tout le monde.
Mais tout le monde avait la même?
Non. Tout le monde n'avait pas la même. Non, absolument. D'ailleurs, le président chinois Xi Jinping était le seul à ne pas avoir de plaque d'immatriculation. Quand on sait qu'en France, même les voitures officielles...
Il n'y a pas un CD, truc diplomatique?
Non. Il y avait les deux trous pour mettre la plaque, mais il n'y avait pas de plaque. Donc, à mon avis, c'est un gros passe-droit parce que même les voitures des officiels français, la voiture du président, il y a toujours une plaque.
Mais dans ces cas-là, c'est l'ambassade de Chine qui fournit la voiture?
Ben absolument, oui. C'était une voiture chinoise, d'ailleurs, une énorme limousine chinoise avec des vitres blindées qui faisaient l'épaisseur de mon poignet à peu près. Mm-hmm. C'est-à-dire 2,50
m. Parce que je ne voudrais pas dévoiler un secret, on fait de la radio, mais vous avez un gros poignet, Manu.
J'ai un poignet.
On va revenir à Hélène Rollès. Donc, elle est arrivée dans une limousine.
Elle est arrivée dans une limousine, mais pas chinoise.
Voilà. Ah. Et à ce moment-là, la garde républicaine a entamé Hélène, je m'appelle Hélène.
Non, en revanche, il y avait Jean-Michel Jarre qui était là. Et la fausse bonne idée, c'était d'avoir fait jouer à la garde républicaine du Jean-Michel Jarre.
Oxygène.
Vous ne reconnaissez pas vraiment. Hein. Ils n'avaient pas l'habitude de jouer ce genre de musique, apparemment.
Hein. Vous ne voulez pas nous cracher un potin sur Hélène et les garçons?
Non, mais j'ai pas de potin.
Il n'y a rien.
Ni potin, ni popotin.
Bon, elle vous a pas fait un coucou spécial? Elle n'a pas dit spécial dédicace aux auditeurs de Beurre FM?
Elle m'a demandé de vos nouvelles. Vous lui manquez beaucoup, apparemment.
Oui, bon, bien, voilà. Jean-Michel Jarre était bien accompagné, d'ailleurs. Hein.
Oui, il était avec Gong Li, l'actrice chinoise, dont tout sait.
Qui est une star énorme. Alors, pour le coup, elle, c'est une vraie star.
Une vraie grande star.
En Chine.
Ouais. Et Jean-Michel Jarre aussi, d'ailleurs. Il est très connu en Chine. Ils ont dû se connaître là-bas, d'ailleurs, j'imagine. Et en fait, tout le monde sait qu'ils étaient plus ou moins en couple, mais ils démentaient chacun de leur côté. Mais là, ils sont arrivés main dans la main.
Il a le plus beau palmarès, Jean-Michel Jarre, mais je crois de tous les Français. Alors là,
c'est un serial séducteur, Jean-Michel Jarre. Ouais.
Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Il est encore bien pour son âge, Jean-Michel Jarre. Moi, j'aimerais être comme lui à son âge. Hein. Il est plutôt pas mal. Hein. Il est bien conservé.
Oui, bon. Je sais pas, mais pour le coup, il est plus âgé que Hélène de Hélène et les garçons. Hein.
Ah bah oui.
Il a au moins 60 ans, Jean-Michel Jarre.
Mais il a plutôt même un peu pas loin de 70, hein, je crois.
D'accord.
Hein.
Bon, on va parler de hamburger ce matin avec notre invité, notre premier invité, Manu.
Absolument, on reçoit Soufiane Mawazini, qu'on avait déjà reçu une première fois. Alors, il ne fait pas que des hamburgers, hein, parce que c'est le cofondateur avec son frère de Cook & Sage, hein, qui revisite un petit peu la cuisine du Levant. Quoi, hein.
Exactement.
Ouais,
exactement.
Et donc, ce n'est pas le chef voilà, hein, parce qu'il dit exactement, il a la voix du chef voilà, mais ce n'est pas le chef voilà. Hein, non, mais c'est vrai, la dernière fois qu'on avait reçu Soufiane, des auditeurs nous avaient demandé si c'était le chef voilà. Non, c'est pas le chef voilà qui est là. Et vous le retrouverez bientôt avec
chef voilà qui sera là à partir de samedi prochain pendant tout le Ramadan d'ailleurs, le retour du chef voilà.
Voilà, et donc Soufiane qui avec son frère donc ont ouvert Cook & Sage, qui est un très bon restaurant dans le 6e arrondissement rue Bernard Palissy, où on mange entre autres des burgers.
Exactement.
Et des burgers avec des garnitures, des viandes à la mode un petit peu orientale, donc revisité.
Exactement.
Et avec de la viande halal, bien sûr, et surtout bio.
Bio, voilà.
Alors, expliquez-nous un petit peu, Soufiane, les provenances de vos viandes.
Bah déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir. Donc, je vous
salue
à tous. Merci à toute l'équipe de Beurre FM. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie.
Welcome back.
Merci, c'est gentil. Donc voilà, Cook & Sage. Effectivement, c'est un concept où on utilise toujours des cuisines traditionnelles revisitées. Et entre autres, on fait des burgers, donc des burgers gourmands, mais qui restent malgré tout bon pour la santé, frais. Et donc, comme vous l'avez dit, la priorité d'un bon burger, déjà, c'est les matières premières. Et effectivement, on a la chance et le luxe de travailler avec une viande qui est halal et bio. Notre fournisseur s'appelle Ayabio, je ne sais pas si vous connaissez.
Bon, Ayabio qui est connu, c'est un des pionniers du bio.
Exactement.
Dans le halal d'ailleurs.
Voilà, ouais. Donc c'est bien parce qu'il y a une vraie traçabilité, c'est une très bonne qualité de viande. Il utilise le label du Jura, donc on sait que même hors halal, c'est pas mal.
Je me permets de vous interrompre parce que je viens de recevoir un SMS de quelqu'un qui écoute l'émission mais qui a pas dû écouter ce que je disais avant, qui me dit tiens, le chef voilà est de retour.
Alors, désolé.
Alors non, c'est mon papa d'ailleurs qui m'écrit. J'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire puisque
bon
c'est aujourd'hui.
Bon anniversaire.
Et donc papa, non, c'est pas le chef voilà, mais juste avant, j'ai fait une petite précision en disant c'est pas le chef voilà qui est avec nous, c'est juste quelqu'un dont la voix ressemble à celle du chef voilà. Voilà, donc.
Pourtant, j'ai essayé de prendre ma vote Barry White pour vous, mais on me considère.
Oh, c'est pas mal, vous êtes presque à Barry White.
Ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, merci.
Bien, Manu, ça vient d'où le hamburger ?
Bah alors, écoutez, Philippe, il y a tout un tas de versions, parfois même farfelues, hein, pour expliquer les origines du hamburger, hein, plus communément appelé le burger aujourd'hui, hein, surtout chez les jeunes. Mais la réponse, elle est finalement assez simple, puisque comme son nom l'indique, le hamburger, ça vient de la ville de Hambourg, en Allemagne. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de spectacle. Désolé, ça vient de Hambourg. Alors, comme vous le savez, l'Allemagne, c'est un pays où la tartine est reine, hein, et où on s'acharne très souvent à toujours servir les aliments sur des tranches de pain, contenant très souvent du seigle d'ailleurs.
Alors c'est marrant parce qu'en général, quand vous dites comme vous le savez, ça veut dire que les gens ne le savent pas.
Oui.
Parce qu'on ne sait pas. On sait
parce,
pas que
vous, la... parce que vous, vous savez ce que les gens ne savent pas.
Bah non. Mais Manu, vous dites comme vous le savez, c'est en Allemagne, on fait des tartines. Bah,
bon, alors, alors je vous le dis. Je vais vous l'apprendre,
voilà,
Philippe.
Voilà. Je vous apprends qu'en Allemagne, on fait des tartines.
Je vais vous apprendre une chose, c'est qu'en Allemagne. Oui, mais là, je me la pète un peu si je dis je vais vous apprendre quelque chose. Bon, alors, écoutez. Prenez ce que vous avez à apprendre, je vais vous donner une information. Donc, en Allemagne, oui, on mange un peu tout sur la tartine est reine, on mange un peu tout sur du pain, parce qu'en Allemagne, c'est vrai que le repas, comme on le fait en France, où on s'assoit, on mange entrée, plat, dessert, etc., c'est pas trop comme ça. On met tout un tas de trucs au milieu de la table, on met des tartines, enfin des tranches de pain, et puis on empile des choses dessus et on les mange comme ça. Et parce qu'on mange assez rapidement, en buvant sa bière, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu le... Je caricature un peu, mais c'est un petit peu le repas quotidien allemand. Et donc, en Allemagne, on appelle souvent le plat phare d'une région du nom de la plus grande ville. Alors il y a le Berliner, par exemple, qui est une sorte de petit beignet. Il y a le Bremer qui est un pain aux fruits secs et aux amandes. Il y a le Frankfurter qui est un gâteau en forme de couronne. Enfin voilà, il y a chaque ville a son nom. Et il y a le hamburger. Le hamburger, c'était quoi ? C'était des petits pains dans lesquels on mettait de la viande, Philippe.
Bien. Mais alors le pain du burger tel qu'on le connaît aujourd'hui, Manu, c'est plutôt une espèce de brioche salée, non ?
Oui, alors c'est du pain brioché salé, mais là aussi, l'origine est allemande, parce qu'à Hambourg, autour du 19e siècle, on consommait une sorte de petit pain brioché tout rond qu'on ouvrait en deux et dans lequel on glissait de la charcuterie, des crudités, des pickles, tout un tas de sauces. Et pour pouvoir emmener avec eux des repas un peu plus consistants, les dockers et les employés du port de Hambourg, ils garnissaient ce pain d'un beau morceau de viande hachée pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire à leur dur labeur tout au long de la journée. Donc ils y ajoutaient aussi des crudités, des pickles, les sauces de leur choix, et là, le hamburger était né.
Alors aujourd'hui, l'hamburger est considéré comme un emblème qui est plutôt américain, Manu. Alors, est-ce qu'il traverse l'Atlantique ?
Oui, alors pour comprendre, il faut revenir une fois de plus à Hambourg, qui est le plus grand port de commerce d'Allemagne. Et au 19e siècle, la ligne maritime Hambourg-New York était l'une des plus actives. Et de très nombreuses Allemandes, toute classe sociale, l'empruntaient pour aller tenter leur chance outre-Atlantique. Hein. C'était les débuts du rêve américain, Philippe. Et si les voyageurs les plus aisés avaient de somptueux restaurants gastronomiques à disposition à bord, ceux de 3e ou 4e classe n'avaient pas vraiment les mêmes moyens, d'autant que la traversée durait assez longtemps. Alors, on leur servait le populaire hamburger pour quelques marques, hein, des espèces de petites cafétérias ou de petites buvettes qui étaient sur le bateau. Voilà comment le hamburger a traversé l'Atlantique.
D'accord, mais là on est au 19e et on est encore loin des débuts de McDo.
Ah oui, en effet. Alors à l'époque, l'hamburger ne se trouve qu'à New York, où il est vendu au coin des rues par des petits marchands ambulants. Il faut attendre les années 20 pour que l'hamburger commence à être vendu dans des restaurants. Mais contrairement à la légende, Philippe, les premiers n'ont pas été les frères McDonald's. Le premier, c'est Bill Ingram, qui a fondé la chaîne de restauration White Castle en 1921. Et ça n'est que 30 ans plus tard, en 1952, que McDonald's est arrivé sur le marché. Et McDonald's, comme on le sait, a popularisé le hamburger dans le monde entier avec le succès qu'on connaît. Une précision sur White Castle. White Castle existe toujours. Ils ont 450 restaurants, je crois, aux États-Unis aujourd'hui. Mais s'ils ne se sont pas développés aussi fort que McDonald's, c'est parce que son fondateur, Bill Ingram, était un esthète du hamburger. Et il ne voulait pas se développer de façon énorme. Donc, il a toujours refusé les prêts, les emprunts. Donc, il s'est toujours autofinancé. Il a toujours refusé la franchise pour avoir plus de... Voilà, il a toujours refusé aussi parce qu'il voulait contrôler la qualité de ses restaurants. Il a toujours refusé de sortir des États-Unis. Donc White Castle, c'est les pionniers et c'est aussi parmi les meilleurs parce que la qualité est inchangée depuis les années 20, justement.
Mais les frères McDonald's se sont développés parce qu'ils se sont fait piquer leur nom.
Oui,
ils ont vendu leur nom à quelqu'un qui en a fait le succès aujourd'hui.
Absolument.
Et puis ils se sont retrouvés dépossédés de leur marque.
Et puis dans les années 60, il y avait un homme d'affaires qui s'appelait Dayan, il leur avait vendu leur marque juste pour la France, hein, c'était pas pour le monde entier, en pensant que ça ne marcherait jamais. Puis il a ouvert un McDonald's à Créteil-Soleil, ça a été un tel carton qu'ils ont essayé de le faire fermer pour raison d'hygiène. Tout en ouvrant un autre McDonald's à Strasbourg. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais le Dayan en question, lui, il n'avait évidemment pas l'intention de renoncer à ses droits.
Alors, les Français sont de gros consommateurs de hamburgers.
Alors, oui, en France, nous sommes les quatrièmes consommateurs de hamburgers dans le monde, mais on n'est pas les leaders européens, parce que les Anglais sont quand même loin devant nous. Alors, on les voyait plus fish and chips, etc. Mais non, en street food et en restauration rapide anglaise, le burger a encore de beaux jours devant lui. Mais la donne, ça pourrait changer, parce qu'avec la mode actuelle du burger haut de gamme à la française, je vois notre ami Soufiane qui acquiesce et qui opine. Avec cette vogue actuelle du burger haut de gamme, il y a quelques anciennes qui commencent à être des gros acteurs sur le marché. Hein, je pourrais citer Big Fernand, Paris New York, Mamie Burger, HD Dinner, là qui est plus en restauration assise qu'en restauration livrée ou un peu street food, Blend, ou encore le camion qui fume. Et ça commence vraiment à se développer pas mal. Donc on va peut-être rejoindre un peu nos amis d'outre-Manche. Et puis je sais pas, c'est quand on parle de numéro un européen, est-ce que ça concerne tout le continent ou est-ce que c'est juste les membres de l'Union européenne? Parce que sinon, ça veut dire qu'on est passé devant là hein, bientôt.
Et est-ce qu'il y a du renouveau, Manu, du hamburger hein, en France?
Alors oui, totalement, parce que depuis un peu plus de 10 ans, il y a de nombreux cuisiniers ou des enseignes de restauration qui tentent de donner une image un peu plus haute couture au hamburger, hein, mais une image plus saine aussi, comme le fait d'ailleurs Soufiane chez Cook & Sage, avec des très bons produits, des steaks issus de races à viande et non pas de vaches de réforme, hein, du bio. Hein, ça c'est encore plus récent. Et puis le burger devient parfois aussi un petit peu fusion avec des enseignes comme Siseng qui fait des Bao Burger. Alors, c'est en fait ce sont des burgers où on remplace le bun, donc le pain du burger, par des Bao qui sont des petites brioches blanches à base de farine de riz. Alors ça renforce en plus un petit peu le côté santé puisqu'il y a moins de sucre, il y a pas de gluten, etc. Et puis, par exemple, Shiso Burger aussi, qui ajoute des herbes ou des ingrédients exotiques à ses recettes, comme son nom l'indique, notamment du shiso.
Mais est-ce que c'est encore des hamburgers?
Alors, c'est ça la très bonne question. Hein. C'est ça la très bonne question.
Moi, je me demande si c'est pas du... voilà, c'est du pain, mais c'est plus vraiment d'hamburger, Soufiane.
Non, mais finalité des choses, le burger se résume à trois aliments, trois ingrédients. Ça va être le pain, la viande et le fromage.
Voilà.
Et on rajoute toujours la frite, excusez-moi, faut jamais l'oublier. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, c'est toujours un burger. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui a changé la donne en France par rapport au marché du burger, c'est que maintenant les burgers sont proposés dans tous les restaurants et même les brasseries. Et ça a vraiment changé la donne.
Oui, et même dans les restaurants des grands hôtels, il y a un palace, au room service, il y a toujours un burger.
Hein. On se rapproche de plus en plus en termes de concurrence par rapport à l'Angleterre, surtout ces trois dernières années. Donc c'est vrai que le marché du burger a pris une ampleur phénoménale.
Mais avant, est-ce que le burger n'a pas remplacé le simple steak haché? Avant, vous trouviez toujours sur les cartes le steak haché.
En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le burger a battu le jambon beurre. Donc, ce qui est déjà extraordinaire pour la France, parce que c'est assez culturel. Juste sur l'année à peu près 2017, on a consommé, me semble-t-il, 1,2 ou 3 milliards de burgers. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de consommateurs.
Ouais.
Et effectivement, là, maintenant, voilà, c'est vraiment ancré dans la culture française.
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui même, hein, le steak haché, le simple steak haché, quand on le commande dans un restaurant, souvent il est appelé hamburger fachfal ou des trucs comme ça. Ouais. Alors que c'est pas un burger, c'est juste. Maintenant, aujourd'hui, même le steak haché seul est parfois appelé hamburger. C'est dire si ce truc qui est parti de Hambourg, qui est passé par les États-Unis et qui est revenu en France, ouais. pour que ce soit connu en France, il a fallu que ça passe par les États-Unis, alors qu'on est quand même pas très loin de l'Allemagne. Hein.
Ouais, effectivement.
Je crois que c'est le bretzel, moi, le pain le plus connu d'Allemagne.
Oui, c'est l'un des pains. Mais de toute façon, en Allemagne, on consomme tellement de pain qu'il y a beaucoup de variétés différentes. Hein.
Bien, on parle du burger aujourd'hui, le burger dans tous ses états, et nous verrons tout à l'heure, nous parlerons d'un événement inédit qui va se passer en France. Le burger, concert, vous l'avez dit Manu, à toutes ses sauces aujourd'hui.
Complètement. Et puis bientôt, effectivement, un événement, on en parlera avec Brice Morvan qui vient de nous rejoindre. C'est le championnat de France du burger, d'ailleurs il a été champion de France. Hein.
Tout à fait, en 2016, bonjour.
Bonjour Brice.
Bonjour.
Bienvenue, on va vous servir un café, vous laisser arriver et on revient dans un instant.
Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et Manu, nous parlons du burger aujourd'hui à travers un événement qui se déroule lundi, un concours unique dans son genre avec nos invités, Manu.
Oui, absolument, le championnat de France du burger, hein, qui existe depuis quelques années, qui a été lancé donc par Socopa Restauration, hein, qui est la branche pro de Socopa. Et donc on a avec nous pour en parler donc Brice Morvan, comme on vous le disait avant la pause. Alors Brice Morvan, je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter parce que bon, il est déjà quand même assez connu du public, et puis même s'il est jeune, enfin par rapport à nous en tous les cas, Philippe.
Laissez-moi tranquille. Dites par rapport à moi, Manu.
Il a déjà un CV bien rempli. Bon, déjà Brice Morvan, il a été champion de France du burger 2016. Il est cette année président du jury du championnat de France du burger 2019, donc chef cuisinier, membre de l'Académie culinaire de France, demi-finaliste de Top Chef en 2010,
ouais,
hein, où il avait laissé un souvenir assez sympathique, puis ça se voit, il est sur le plateau, il a une bouille sympa et il est souriant, tout va bien. Et puis, il a écrit un livre que moi j'avais bien aimé à l'époque, justement, on en revient à la junk food, hein. Brice Morvan présente sa junk food 100% maison avec des produits frais, c'était en 2013.
Oui, c'est ça, je m'étais un peu éclaté sur un bouquin, un petit livre... qui représentait la junk food, mais avec une vision...
Mais saine, quoi, en gros.
Saine, voilà. Différente. Et voilà, j'avais pris quelques recettes à des commerces, à des restaurateurs chez qui j'allais. Je vais faire référence au durum, la galette kurde. Voilà, des petites recettes sympas que j'avais refaites.
On a parlé plusieurs fois, nous, ici, d'ailleurs, de Urfa Durum, qui est un spot très connu.
C'est lui qui m'a donné sa recette.
Et maintenant, moi, je vous conseille Cook and Sage.
Ah oui, Cook and Sage, avec, évidemment, puisque le Sage, c'est le four qui sert à faire les Durum.
Et la particularité aussi, voilà, chez nous, c'est qu'on pétrit nous-mêmes la pâte et qu'on cuit le pain à la minute, donc avec une certaine saveur. Enfin, je vous invite à nous découvrir.
Ah, avec plaisir.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Voilà, donc allez-y, reprenez Brice. Oui, donc, d'abord les durum.
Alors oui, les durum. Après, bon, j'ai dérivé un peu. C'était parce que c'est vrai que la street food, ça n'a pas de frontières non plus, quoi. La street food, pour moi, c'est ce qu'on mange avec les mains et dans la rue. Et alors, il y a un troisième truc, hein, c'est que la street food, c'est accessible à tous. Et ça, pour moi, c'est important parce que, en fait, c'est la nourriture du peuple.
C'est la vraie cuisine populaire.
Voilà.
Oui,
c'est ça. Et voilà, c'est ce que j'aime dans la street food.
D'accord. Alors là, donc cette année, président du jury du championnat de France de burger. Alors combien de participants à la base?
Alors il y avait 310 310 participants.
Ouais, c'est un concours national, hein. Il y a des finales régionales.
Oui, ouais, voilà. Ça. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, concours national, 310 participants. Et puis après, il y a une première sélection avec une centaine. Donc, on épure un peu. Hein. Malheureusement, on est obligé de...
De sélectionner, bah c'est le principe d'un concours en même temps. Ouais.
Et puis après, on se retrouve avec les 25 finalistes régionaux. Donc là, la France est découpée en 5 régions.
Donc là, c'est le stade auquel on est arrivé. Hein.
Le stade auquel on est actuellement. Et on a cinq finalistes, entre guillemets.
Par région, donc.
Par région, ouais. Qui vont se disputer la coupe lundi.
Donc, d'accord. Donc là, en fait, c'est en fait chacune des régions qui va s'affronter avec son finaliste pour trouver le champion de
France. Voilà. Chacune des régions. Alors, des cinq régionaux, on va en sélectionner un.
D'accord.
Et les cinq derniers vont se disputer la coupe.
D'accord. Alors, vous aviez gagné avec quel type de burger ce championnat de France ?
Alors, moi, je faisais à l'époque, c'était en 2011. Donc, j'ai gagné la coupe plus tard parce que justement, ce burger, c'est un burger assez simple.
C'est un burger que vous faisiez au comptoir de Brise, votre restaurant.
Exactement, ouais. Voilà, je faisais ça à mon restaurant, qui était dans le 10e, marché Saint-Martin. Et en fait, j'ai voulu lui rendre hommage parce que un burger très simple, mais entièrement fait maison, avec le pain, des ingrédients sélectionnés. Donc, il y avait du bio, il y avait des farines complètes, il y avait voilà tout ça. Donc, on faisait le pain, on hachait la viande sur place, on prenait un bon comté. Il y avait une sauce à base de moutarde au condiment. Il y avait des oignons bien caramélisés. Et voilà, et tout ça monté minute, toasté minute. Voilà, et ça a fait le succès de mon resto. Donc, alors, je voulais lui rendre hommage.
Là, ce que vous venez de nous raconter, c'est un hamburger. Et on parlait avec tout à l'heure, hein, on parlait de ce que c'était que vraiment un hamburger. Quand on regarde les recettes que les gens font au championnat de France d'hamburger aujourd'hui, on s'éloigne quand même du burger.
Ouais, on est dans la revisite là. Oui.
Alors on s'éloigne parce qu'on y intègre encore plus de cuisine en fait. Oui, finalement, on va agrémenter le plat. Ça voilà, va devenir un vrai plat. Plus un sandwich.
Mais c'est plus un sandwich, c'est ça.
Voilà.
Mais c'est-à-dire que quand on parle du pain, de la viande, du fromage et des oignons, là on est sur le hamburger.
Tout à fait. Mais voilà, en y intégrant de la cuisine, en fait, on va cuisiner le burger. Et c'est ce qui est sympa dans ce type de sandwich, parce qu'on peut continuer à le manger à la main, mais quelque chose de cuisiné. Et voilà.
Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. Si on se met à trop cuisiner un burger, est-ce que ça reste vraiment encore un burger ? Est-ce qu'on est encore dans la notion street food, cuisine populaire dont vous parliez à l'instant ?
Alors, moi, je pense que oui. Je défends ça parce que je suis cuisinier avant tout. Et j'ai décidé de mettre un burger cuisiné quand même sur ma carte parce que je hachais le persil, parce que je l'équeutais, parce que je le lavais, parce que... Voilà, et tout ce qui intégrait le burger était fabriqué maison et non industriel. Et donc, voilà, je défends ça.
Soufiane disait quelque chose d'intéressant, c'est que finalement la star du hamburger, c'est la sauce.
Bah,
ce qui fait en tout cas le succès des grands hamburgers qui sont connus dans le monde, c'est leur sauce.
Voilà, mais ça c'est sur le côté vraiment fast-food.
Fast-food, oui, parce que comme le reste des ingrédients, c'est de la merde. Heureusement qu'il y a la sauce pour donner un peu de goût. Quoi.
Bon, après, c'est aussi dans la culture française, la sauce, c'est très important chez nous. Mais c'est vrai qu'au final, c'est ça qui va relever déjà les aliments lui-même et qui va donner le goût principal un petit peu du burger. Après, ceux qui veulent travailler le palais, forcément, ils vont travailler sur les produits qu'on utilise. Après, moi, mon interprétation aussi de la popularisation du burger, c'est aussi le fait... notre génération, hein, nous, on a grandi dans le fast-food, on a grandi dans le snacking. On a grandi en mangeant des burgers, des pizzas, des kebabs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a grandi, on a des moyens, on a un palais, mais on est toujours issu de cette culture. Donc, de ce fait, on s'adapte aujourd'hui. Donc, on veut toujours notre burger, mais on veut pas le burger lambda de chez McDo ou je sais pas quoi. On veut un burger travaillé, un petit peu gourmet, qui s'adapte aussi à nos besoins.
Ouais, alors, Soufiane, là, j'ai quelques chiffres. Là, sur les burgers, mais au sens large, c'est-à-dire en comptant y compris les burgers haut de gamme, là, c'est plus la sauce qui compte en premier, mais c'est la qualité de la viande à 74%.
Ouais, exactement.
Et en deuxième, la qualité du pain à 59%, puis la qualité du fromage 51%. Et là, enfin, la qualité de l'accompagnement à 50% des personnes interrogées.
Mais ceci dit, si elle est hachée, la viande, est-ce que la qualité a autant d'importance que si elle ne l'est pas?
Évidemment. Peut-être même encore plus, Philippe. Hein. Ouais. Peut-être même encore plus quand une viande est, si on parle d'un vrai steak haché 100% bœuf. Après, il y en a qui vous rajoutent des protéines de machin, etc. pour donner du goût, du moelleux. Bon, Brice doit connaître ça par cœur. Ouais. Hein. C'est quand vous allez au supermarché, et que vous voyez que vos steaks hachés, ils s'appellent burger ou le grillé et que ça s'appelle pas steak haché de bœuf, ça veut dire qu'il y a des cochonneries dedans. Voilà.
Regardez les compositions, c'est comme tout. Ouais.
Après, bon, aussi, ce qui est bien dans le steak haché, c'est que c'est toute une question de composition et de composantes.
Oui,
et
puis
il y a les pourcentages de gras. Et il faut pas oublier que le pourcentage de gras aussi, c'est ce qui...
C'est quand même important.
C'est ce qui donne la saveur à la viande. Donc, il faut penser à tout ça aussi. Donc, non, le haché a son pesant d'or, déjà. Déjà, c'est plus difficile à travailler plutôt qu'une viande, on coupe, on met, etc., etc. Donc non, ça a son pesant d'or, parce qu'il faut trouver les graduations entre le pourcentage de graisse, etc., la qualité, la partie du bœuf. Moi, par exemple, j'utilise deux parties du bœuf différentes. Je vais pas vous dire lesquelles, c'est le secret.
Bon, on les connaît, vous les avez données la dernière fois, déjà.
Ah, mince.
Donc, bah, on ne donne qu'une, il y a la poitrine dans les deux.
Exactement.
Hein, c'est ça,
ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que moi, je suis d'accord, c'est beaucoup plus compliqué avec le steak haché. Finalement, un steak, il faut trouver un bon boucher, une belle pièce, une viande noble et le travail est fait. Steak haché, là, c'est le chef qui rentre en jeu et qui doit tout donner pour.
Ouais, enfin, ça peut être la race de la bête aussi parce que aussi. C'est vrai que si on prend un bas morceau d'une vache de réforme et un bas morceau d'une charolaise. Ça fait pas le même résultat quand même. Ouais, et puis vous dites c'est important aussi la quantité de gras. Les gens pensent que pour avoir un steak haché ici, on va dire, il faut le moins de gras possible, mais comme ça aura moins de goût en général, mais on compense avec les sauces. Donc
nous par exemple, notre viande, la particularité de nos viandes, mais c'est pas force, on met moins de 15% de matière grasse. On a fait exprès, pourquoi? Parce qu'on veut que ça reste healthy. Mmh. Mais en même temps, on peut pas pousser trop bas.
Pour moi, en dessous de 15, ça ne sert plus à rien. Ouais.
Voilà, exactement. En termes de cuisson, si la personne demande ne serait-ce qu'à point, elle est limite trop cuite et on n'apprécie pas vraiment la saveur du steak.
L'avis du chef sur la quantité de matière grasse?
Quantité de matière grasse, moi je suis... Je suis resté pour le burger sur une faible quantité de matière grasse. Ça, c'est mon opinion à moi, parce que je prenais quand même des viandes de race et qui étaient suffisamment goûteuses et je ne voulais pas en fait saturer le burger avec la sauce, justement les oignons caramélisés qui sont quand même assez gras, même égouttés, tout ça, le fromage, il y avait du comté, tout ça. C'est pour ça je suis resté, moi j'étais à 5%.
Ah oui, quand même. Ouais.
Bon, c'est pas beaucoup pour le coup.
C'est très peu.
Ouais.
C'est très peu. Voilà.
Non, mais c'est bien. C'est pour ça aussi que c'est bien que les chefs se mêlent un petit peu de burgers, parce qu'on arrive à faire des burgers un petit peu haut de gamme avec effectivement de moins de matière grasse que n'arrivent pas à faire les industriels. Hein.
Bah après, c'est là où ça relève la qualité de la viande.
Mais les industriels et les grandes chaînes de hamburgers. Le défi qu'ils ont, c'est que dans le monde entier, le burger doit avoir le même goût.
Alors oui,
ils doivent reproduire à peu près là. Un McDo à New York, ça a sensiblement le même goût qu'un McDo à Paris.
Plus tellement et de moins en moins, parce que maintenant ils ont des bureaux.
Sur le Big Mac, par exemple.
Des bureaux de goût locaux qui font que le Big Mac diffère un petit peu. Il y a eu le même problème, la même étude avec les cigarettes. Avant, les cigarettes devaient avoir le même goût dans le monde entier. Maintenant, selon l'endroit, aller acheter une marque de cigarette en Égypte, vous l'achetez en Amérique du Sud et vous l'achetez en France, le même modèle de cigarette, on va dire, elle n'a pas le même goût. Bon,
comme le
on rappelle que c'est pas bon de fumer. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Bon. Mais maintenant.
Parce que vous vouliez avoir le dernier mot, comme d'habitude.
Non, il y a des bureaux surtout, de goût locaux, Philippe. Hein,
et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, on prend souvent comme référence McDonald's, Quick, mais c'est hors catégorie. Là, maintenant, on rentre dans une nouvelle sphère. Là, on rentre sur du gourmand, donc ça va plus être des références. C'est limite McDonald's qui vont essayer de nous prendre en référence pour essayer de s'adapter. Mais c'est ça qui est bien, et je sais pas si c'est propre à la France, mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on est dans une transition et donc du coup le burger n'est plus référencé à du fast-food.
Ce que vous voulez dire, c'est que le fait que les chefs s'emparent du burger va obliger les grands acteurs du secteur à changer leur burger.
Mais c'est ce qui se passe, même pour les, c'est même dans les industriels, mais c'est même pas forcément McDonald's, c'est même les marques de viande, etc., etc. Ils s'adaptent et ça c'est beau.
Depuis 8 ans maintenant, je pense ouais, que depuis ouais. 2010, hein, le burger a pris une place sur le marché qui ouais. est incommensurable. Et j'ai l'impression, on le voit d'ailleurs, que les gros industriels, les gros... sont comme en train de se...
C'est vous qui les faites bouger, quoi.
Ils bougent complètement. Ça leur fait peur. Ça leur fait vraiment peur parce que... voilà, moi, je vois beaucoup moins de monde dans les fast-food industriels qu'il y a 10 ans.
Et pour la première fois, en plus, depuis très longtemps, en France et même en Europe, la tendance s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fast-food qui ferment. Avant, il y avait des c'est-à-dire entre les fermetures et les ouvertures, ça allait plutôt à la hausse. Et là, aujourd'hui, ça stagne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ferment et d'autres qui ne rouvrent pas.
Ils essayent par tous les moyens de se donner une image healthy. Voilà. Parce que McDo, on a vu le changement du rouge. Ouais, ils sont passés au vert. On n'a rien vu. Hein.
C'est vrai, ouais.
McDo, il y a 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Ouais, ouais. Du rouge, ils sont passés au vert. Bizarre, hein. Maintenant, ils font le signature, le machin, le truc, avec des races à viande, les machins, les trucs. Ils essaient de justifier dans la pub à fond. Ils sont dans
c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans la justification, les messages publicitaires aujourd'hui.
Et ça, c'est un signe.
En même temps, il y a eu quelques campagnes qui montraient un petit peu ce qu'ils mettaient dans leur burger, les antivomitifs pour avoir envie d'en manger plus, tout ça, etc. Bon, quand on commence à mettre de l'antivomitif dans une recette, hein, je parle bien de recette, il y a un moment où il faut se poser des questions sur le bien fondé d'aller manger dans ce genre d'enseigne, hein, Philippe. Mmh. Hein.
Complètement. Et puis le prix aussi, c'est le nerf de la guerre. Hein. À la base, le fast-food, c'est quoi ? C'est bon et pas cher. Maintenant, même McDonald's ou d'autres références, vous voyez le prix du burger, c'est plus le même prix qu'avant. Me semble-t-il, avant, une moyenne, c'était à peu près 6 euros. Là, maintenant, on est presque à 10 euros, etc.
Ils ont un burger à 10 euros.
Voilà, c'est quand même énorme.
McDonald's, c'est ça, oui.
McDonald's dire, exactement.
Voilà, ce sera dans les programmes présidentiels bientôt.
On peut trouver au même prix aussi.
Je ferai le burger à moins de 10 euros.
Donc, on peut manger un gourmet à 10 euros. Donc, on va où ?
Exactement.
Non, les prix entre le gourmet et le mauvais fast-food, junk food, se rapprochent. Donc il y a de moins en moins de raisons d'aller manger dans des mauvais Exactement. Vendeurs de burgers.
Bien, on parle du burger jusqu'à 13h. Peut-être que vous nous écoutez, que vous avez votre recette secrète de burger. Vous pouvez la partager avec nous au 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Allez, on parle du burger aujourd'hui, Manu, à travers un événement qui se déroule lundi, un concours unique dans son genre, c'est
le championnat de France du burger, et qui ne se déroule pas lundi d'ailleurs, qui a commencé à se dérouler, Philippe, hein, depuis quelques temps, on le rappelait juste avant la pause avec l'un de nos invités, Brice Morvan, et donc la finale a lieu lundi, hein. Donc ça a lieu durant le salon du snacking, c'est ça ?
Oui, c'est ça, à Porte de Versailles. C'est un salon qui se déroule sur 2 jours, donc depuis 2016, la Coupe de France ne fait que s'accroître, enfin exploser au niveau des participants, et donc c'est oui, on en parle pas mal. Ce petit sandwich a quand même fait sa place dans nos
dans les maisons, dans les familles. Ouais. Voilà. Ouais. Et bon, si on veut aller voir la finale en live, on peut aller vers 16h30, je crois.
Alors oui, voilà, ça va se dérouler à 16h30. Ça commence à 9h30 et toutes les heure et demie à peu près, il y a une région qui passe.
Un nouveau finaliste,
cinq candidats, et qui passe toutes les heures 30 environ, et là on va manger du burger.
Alors sans spoiler votre favori pour la finale, est-ce que sur les tours précédents vous avez goûté des burgers qui vous ont vraiment surpris, conquis par leur originalité par exemple?
Alors oui, complètement. J'ai goûté celui de 2017, l'année après moi, qui était un burger de Vincent Boccara qui était avec une sauce au whisky japonais, il me semble, un pain au charbon.
Ouais, ça c'est à la mode, le charbon actif. Ouais.
Voilà. Un burger noir, le Black OG, je crois, le Black Hog. Très très bon burger. Vraiment, je me suis régalé. Et voilà. Et c'était pas. Moi, ce que j'aime dans le burger, c'est juste d'avoir envie de le prendre, de mordre dedans et c'est tout quoi. J'ai pas envie de voir des trucs qui dépassent des je sais pas des décos, des comme je disais, c'est pas un concours photo. Il faut avoir il faut qu'il vous fasse un clin d'œil, le burger, vous le chopez et puis clac.
Il faut qu'on ait envie de se casser la mâchoire quoi.
Exactement, voilà, c'est ça. Pour moi le burger c'est ça. Et c'est ce que j'ai demandé, j'ai recommandé d'ailleurs aux participants la Coupe de France organisée par Socopa, c'est de vraiment nous faire envie.
Ouais, du gourmand quoi. Hein,
du gourmand, voilà, du gourmand. La texture quand même, mais après c'est vrai que pour moi aussi un burger, il faut vraiment que quand on croque dedans, tout se mélange en bouche, on ait le goût de chaque ingrédient, pas un truc qui dérange quoi. Ouais. Voilà, comme ça arrive parfois.
C'est vrai qu'il y a tendance à surcharger les burgers pour pas grand chose, parce qu'au final le but, comme vous dites, c'est d'apprécier chaque aliment qui est à l'intérieur. Donc pas besoin de mettre 10 000 choses. Vaut mieux mettre quelques produits, mais les bons et les vrais pour pouvoir bien les savourer.
C'est ça. La grosse tranche de tomate épaisse pas mûre. Qui sort quand on croque dedans. Ouais. Il y a le bacon parfois qui est récalcitrant. Voilà, c'est assez pénible ça.
Le moi, bacon j'aime... récalcitrant.
Oui, ouais. Un peu trop grillé ou caoutchouteux. Voilà, moi j'aime pas ça. Soit on le fait croustillant, on le fait frit, on fait une poudre, j'en sais rien. Mais voilà, il faut que ça se mange facilement.
Ouais. Oui, d'ailleurs, bon, c'est vrai que le bacon. Les industriels de temps en temps le mettent dans le bun, enfin essayent de trouver des variantes.
C'est vrai, ouais, on en voit.
Après, ouais, faut jamais oublier que le graal du burger, c'est la consistance. C'est les gens veulent un burger pour être calé, quoi. Donc, faut jamais oublier cet aspect-là. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a eu la mode du fait que maintenant, il y a une démocratisation du burger et que même le petit snacking va proposer des burgers comme la grande brasserie. Bah, ils sont en train de mettre le charger au max pour pas grand-chose. Mais le propre du burger, c'est de se dire « Ah, ça me cale ».
Non, mais il faut aussi quand même que les ingrédients aillent ensemble, quoi. C'est pas juste le fait de blinder le burger, il faut quand même qu'il y ait une. Alors c'est vrai quand on regarde, là je suis sur la composition des burgers des finalistes de l'Île-de-France, il y en a un qui m'interpelle, c'est le Rouerga, donc c'est Maxime Fabry qui est seconde cuisine dans un restaurant qui s'appelle The Place Too, que je connais.
Il y a du Roquefort là-dedans ?
Alors non, il n'y a pas de Roquefort, mais c'est un hommage à sa famille et à ses origines. Hein, il dit que tous les ingrédients sont significatifs de l'Aveyron. La charcuterie en provenance de Rodez, le miel et l'abeille, symbole de la gueule, l'odeur mentholée du thé sur le pain et la tome d'Aubrac, un fromage plutôt neutre mais à la texture ronde. Donc là, je cite le chef qui a préparé ce burger. Ses saveurs simples créent un parfait équilibre et sont rehaussées par la morille, la poitrine fumée et l'acidité du vinaigre. Alors là, on voit rentrer des produits nobles dans le burger. Ouais. On a la morille, qui est un produit cher. La tome de la gueule, qui est pas le fromage le moins cher. Est-ce que c'est un peu l'avenir du burger, le côté quali comme ça?
Alors, je ne pense pas. Hein. On n'est pas obligé de mettre des sommes faramineuses dans des bons produits pour faire un bon burger. Je pense pas que ce soit l'avenir. En revanche, c'est assez sympa de pouvoir le faire une fois de temps en temps. Je me souviens, j'avais fait un burger de Noël au bœuf wagyu et foie gras, il me semble. Enfin bon, je me souviens plus tout à fait. Et j'avais mis ce burger.
C'est un burger Rossini, quoi.
Truffe,
un peu,
ouais. Ouais, voilà, truffe, foie gras et wagyu. J'avais mis ce burger à 49 euros, qui explosait complètement.
Ce qui n'est pas cher pour du wagyu et de la truffe et du foie gras, on est dans
c'est
le même burger.
C'est pas cher, voilà. Et ce burger, ça explosait complètement les prix de mon burger que je vendais à 15 euros. Et il y avait énormément de clients qui, à Noël, se faisaient plaisir avec ce petit burger-là. Voilà, quoi. Donc oui, une fois de temps en temps.
D'accord. Oui, il faut que ça reste événementiel, quoi.
Tout à fait. C'est comme toutes les bonnes choses. Il faut que ça reste. Voilà.
Bon, il y a Pâques qui approche. Alors, Pâques et puis le Ramadan aussi. Alors, burger à l'agneau. Moi, j'aime bien les burgers à l'agneau. Moi, j'en fais un maison. J'appelle ça le Bloody Burger. mais on commence aussi à varier beaucoup les viandes dans les burgers. À la base, c'était steak haché de bœuf. Là, de plus en plus, on met de l'agneau, on met de la volaille, on met.
Il y a aussi. La mode du fusion.
Ouais.
Énormément en ce moment. La mode du fusion. Après, bon, c'est propre. La France, on est riche de différentes cultures, etc. Donc forcément, ça se retrouve aussi dans la cuisine.
D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a dans la fusion, alors, Soufiane ?
Bah, ça peut tout être. On va dire le burger. On parle d'une origine allemande qui devient américaine et qui maintenant se francésise et ce qui peut devenir chinois, etc., etc. Donc ça se retrouve. Nous, on est d'origine syrienne, comme vous dites, levantine. Donc forcément, dans nos burgers classiques, on va rajouter quelques arômes du Moyen-Orient. On
a alors quoi, par exemple ?
Vous faites notamment des burgers à l'agneau, je crois. Vous en avez...
Non, on en avait fait un, mais par exemple, typiquement.
Mais quoi
là, j'ai.
À l'agneau, ça fonctionne pas, ça marche pas.
Après, l'agneau, c'est assez particulier parce que c'est assez fort en bouche. Par exemple, nous, on propose un kefta, mais justement, la signature de notre kefta, c'est qu'il soit pas à l'agneau, qu'il soit au bœuf. Mais pour qu'il ait une certaine arôme, il faut choisir une bonne qualité de viande et aussi les bonnes parties.
Et en Syrie, la kefta, on mélange souvent l'agneau et le bœuf. On met deux tiers de bœuf, un tiers d'agneau.
Bravo. Et donc voilà, là, par exemple, moi, j'ai un burger de classique, le végéta que j'avais déjà parlé, me semble-t-il, à la première émission, avec un steak de falafel qui change du steak de soja un peu récurrent et rébarbatif, où j'ai un autre bœuf où on utilise des pétales de rose et de l'eau de rose, donc ça c'est typiquement oriental.
C'est le girly, c'est ça?
Voilà, on l'appelle le pink burger, du caviar de betterave, donc là on rentre vraiment dans l'Orient, et voilà, c'est toujours le côté fusion, parce que je suis français avec des origines levantines, donc je veux que ça se retrouve dans la cuisine. Pourquoi? Parce que finalement Cook & Sage, mais je pense que même plusieurs enseignes, c'est une cuisine de maison, cuisine familiale, comme vous avez dit tout à l'heure, accessible.
Je vois que vos compositions de burgers interpellent un peu Brice, là, il avait l'air très intéressé.
J'aime beaucoup la cuisine du monde, justement, j'aime beaucoup la cuisine du Moyen-Orient, l'Afrique aussi, l'Asie, j'aime énormément toutes ces cuisines, en Asie, on a le bao, et vous parliez de l'agneau, et moi l'agneau, c'est vrai que pourquoi pas un burger tagine? Pourquoi pas avec je sais pas, une tagine d'agneau bien confite, légèrement, je veux dire,
caramélisé, un peu sucré-salé,
écrasé derrière,
comme le poulet de porc, mais en version agneau.
Et snacké, pourquoi pas? Mais vraiment, moi je. Voilà, ça c'est moi j'adore. Et un ketchup avec la sauce de tagine.
Enfin un ketchup maison.
Un ketchup au miel.
Après tout ce qui est tagine, c'est vraiment
on
propre.
On réduit
au Maghreb plus.
Au Maghreb,
ouais.
Maghreb, mais comme vous dites, il y a toujours des possibilités.
Je parle
bien évidemment.
Tagine parce que j'adore ça, mais voilà, ça pourrait être.
C'est vrai que nous on a de la chance que de par nos origines, c'est les épices quoi. On peut s'amuser avec les épices et les saveurs. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi la cuisine du monde, parce qu'avec les épices ça relève un peu tout et là on voyage.
Complètement.
Ouais, juste une précision, Soufiane, ne tapez pas du poing.
Autant
sur la
pour
table,
moi,
parce que
c'est l'émotion. C'est l'émotion.
Vous n'entendez pas, mais nous, on entend fort dans les casques.
Non, c'est les épices.
On sait qu'il est passionné là, quand il parle de nourriture.
Quelles sont les alliances qui ne fonctionnent pas en burger? Quelles sont les fausses bonnes idées aujourd'hui?
Les fausses bonnes idées. Alors, moi, je ne suis pas hyper fan des burgers au poisson.
Ah, et le fameux fish burger lancé par McDonald's jadis.
Pas que ça fonctionne pas, mais il y a moins d'intérêt qu'un burger à la viande, je trouve.
Autant manger un fish and chips d'ailleurs. Un bon fish and chips, c'est très bien.
Ou un burger végétarien, justement. Avec,
mais justement, après, après, ce qui est bien aussi, mais comme vous dites, tout ça, c'est propre à chacun finalement. Parce que le poisson, il y a des gens qui ne mangent pas forcément de viande, qui en ont marre un petit peu de la verdure ou des légumes ou des choses comme ça. Donc pour eux, le poisson, c'est le bon substitut parce qu'il y a une certaine consistance. Mais c'est propre à chacun. Après, moi perso je sais pas
en fait c'est le fait d'avoir un morceau de poisson en avec le morceau de pain
c'est surtout ça le problème.
Oui, puis pané souvent en plus pané
mais même au-delà du pané le poisson ne va pas avec le pain.
Le poulet ça fonctionne en burger?
Bien sûr.
Moi, je trouve ça un peu sec. Ou alors, il faut que ce soit de la cuisse des ossées ou un truc comme ça. Mais avec le filet de poulet, moi, je suis pas hyper fan. Ou alors,
Sofiane n'est pas d'accord.
Le hacher,
non,
le mélanger.
Moi, après, ouais, moi, bon, on en revient toujours à nos origines. Mais moi, je propose souvent en guest, en burger du moment, un burger avec le poulet taouk.
Chiche taouk, ouais.
Donc voilà, et les gens apprécient.
C'est quoi, ouais, mais là, il est mariné avec du citron, etc. Donc il est moelleux.
C'est une histoire d'amour. Voilà, exactement. C'est mariné avec la crème d'ail, crème de tomate, citron, donc c'est pas mal, ça relève pas mal les saveurs. Après, ouais, hamburger, moi j'ai aussi un burger qui est sur la carte où là on fait notre propre chapelure avec des céréales, etc., etc. Et donc le côté croustillant avec le poulet qui peut être un peu sec, et bien ça fait le bon compromis et qui se marie bien avec la sauce, ça peut le faire.
Tout est affaire d'équilibre, Philippe.
C'est ça.
Voilà, exactement, équilibre. Ouais.
Bon, on rappelle peut-être, Philippe, les actualités et l'adresse de...
S'il vous plaît, Manu.
Hein, Cook & Sage, donc 5 rue Bernard Palissy, Paris 6e.
Une maison, un restaurant, c'est une maison familiale. Ma maman en cuisine. J'essaye de l'accompagner souvent pour apprendre l'excellence de la maman.
Le frangin aussi.
Le frangin. Donc, je vous invite à nous découvrir. On propose des burgers gourmets.
Voilà, avec, mais pas que. Hein,
mais pas que. Avec le pain sage, donc le pain traditionnel.
J'ai une question pour le ramadan. Vous faites quelque chose de particulier? Ça se rapproche, hein, parce que...
Ça se rapproche, ouais. On laisse la surprise.
D'accord, bien.
Suivez-nous.
Voilà, là, et puis, puisque vous parlez de ramadan, je précise évidemment que chez Cook & Sage, les viandes sont halal et bio.
Et bio, ouais, ce qui a son pesant d'or, parce que... La qualité. Comme on dit, on ne travaille pas sur beaucoup, des milliers d'ingrédients, mais sur les bons ingrédients frais et le fait minute.
Ok, et donc Brice Morvan, dès lundi, la finale du championnat de France 2019 du burger.
Oui.
On découvrira... Le nouveau lauréat. Et puis, je rappelle votre livre parce que je me suis aperçu qu'il était toujours en vente. Il reste du stock.
Ouais, certainement.
Alors, Brice Morvan présente sa junk food 100% maison avec des produits frais aux éditions Tana. En plus, ça coûte pas cher, 9 euros. Si vous avez un petit cadeau à faire ou à vous faire à vous-même, c'est un bon plan. Puis moi, je me souviens que j'avais lu le livre avec beaucoup de plaisir.
Oui, il est assez sympa. C'est assez ludique. Les photos, c'est des recettes faciles à réaliser. Et puis voilà.
Voilà, et plus de projet de restaurant à l'heure actuelle.
Je reprends mon activité de chef à domicile.
D'accord, super.
Voilà.
Si vous voulez vous payer Brice Morvan à la maison.
Voilà, et puis je travaille en parallèle. Je fais du consulting.
Oui, pour le Mob Hotel, vous aviez lancé les.
Voilà.
Très bien.
Tout à fait.
Merci à tous. Brice. Merci Manu. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Bon appétit si vous êtes à table. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.